des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Axel Mauger.
Chers auditeurs, nous retrouvons le professeur Jean Bastier, l'ancien président de la Société de géographie, pour évoquer un explorateur français de très grande qualité qui s'appelle René Caillé, 1799-1838. Alors, avant d'offrir la parole au président Bastier, je veux rappeler deux livres très important sur cet explorateur qui fut le premier Européen à pénétrer dans Tombouctou, si vous voulez, en 1828, donc la fameuse Tombouctou. D'abord, la relation de ce voyage, qui s'intitule « Journal d'un voyage à Tombouctou et à Génée » en 1830, qui remporta un grand succès, et donc qui s'appelle « Tombouctou ». Ensuite, un deuxième livre, « Alain Kélavillégier », ça c'est Monsieur Alain Kélavillégier, avec une préface de Théodore Monod et qui s'intitule « René Caillé, une vie pour Tombouctou aux éditions Atlantiques ». Voilà donc pour le deuxième livre. Et j'en ai même un troisième, écrit par un certain monsieur qui s'appelle Jean-Marc Pinault et qui s'intitule « Tombouctou à pied ». Il n'y a pas d'éditeur parce que je présume que ce monsieur a dû faire un compte d'auteur, etc. Donc je répète, Jean-Marc Pinault, Tombouctou à pied. Alors dites-moi, président et cher professeur Jean Bastier, ce personnage de René Caillé est tout à fait étonnant. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est vraiment un personnage étonnant.
Oui, alors si vous permettez origines... d'abord une petite précision sur les ouvrages. Le premier ouvrage est écrit par M. Kélavillégier, professeur à la faculté de Poitiers. C'est un ouvrage à la fois savant et pour le grand public. C'est rare de trouver un ouvrage qui ait les deux qualités. Savant, parce qu'il est très précis, très informé, avec également des notes, tout un appareil qui permet de mieux connaître, de mieux comprendre encore le voyage de René Caillé. Alain Kélavillégier, qui est aussi un spécialiste de Pierre Loti.
Oui, c'est important.
Et c'est un ouvrage qui a 10 ans à peine et qui est remarquable. À la fois, pour le grand public et en même temps fait par un savant.
Le message est passé.
Le deuxième, dont vous avez parlé le premier, mais ce n'est pas grave, chronologiquement c'est le second, c'est le voyage de quelqu'un, d'un Français, qui s'appelle Jean-Marc Pinault, qui a refait à pied le voyage de René Caillé, en suivant exactement le même itinéraire. D'abord, ça c'est la première partie du voyage, c'est-à-dire le voyage qui va du golfe de Guinée à Tombouctou, le voyage aller, 1300 et quelques kilomètres à pied. Il a refait exactement le même parcours. Et puis, il vient de refaire, mais il n'a pas encore écrit le livre, le voyage de retour de Tombouctou à Tanger. Tanger, qu'il vient de refaire. Et nous attendons l'ouvrage du retour de René Caillé, refait exactement par M. Jean-Marc Pinault, qui a beaucoup de mérite. C'est un infirmier d'Auvergne qui prend ses vacances pour faire des explorations personnelles.
Ça promet d'être une belle aventure.
Et qui en même temps donne des conférences, visite des dispensaires, etc. Vous voyez, et qui a ramené ce livre qui est remarquable. Et c'est un voyage d'aujourd'hui qui traverse le nord de la Côte d'Ivoire avant les événements de Côte d'Ivoire et qui est en quelque sorte prémonitoire parce qu'en lisant son ouvrage, on comprend que dans cette région du nord de la Côte d'Ivoire, il va se passer quelque chose.
C'est
prémonitoire. Parce que ce monsieur était un excellent observateur, évidemment. Ce n'était pas uniquement un homme qui marchait
alors,
à pied.
Venons-en à M. René Caillé.
Alors, René Caillé a eu un destin tout à fait extraordinaire.
Qui est ce personnage?
Parce que c'est un homme du peuple, un Charentais. Qui est né à Mauzé-sur-le-Mignon, qui est une petite bourgade, un chef-lieu de canton du sud des départements des Deux-Sèvres, mais tout près de la Charente-Maritime. C'est-à-dire sur le trajet entre Poitiers et La Rochelle-Rochefort, c'est-à-dire Paris-La Rochelle-Rochefort.
Ça invite au voyage.
Voilà. Et oui, parce que ces gens-là qui sont sur ce trajet qui fait Paris-Tours-Poitiers et la côte, ces deux grands ports de La Rochelle et Rochefort, ce voyage a été fait par de nombreux Français qui allaient prendre le bateau à La Rochelle et Rochefort pour aller vers les Antilles ou vers l'Afrique.
Ah, très bien.
C'était, voilà. Et là, les autochtones, les gens du pays qui voyaient passer ces voyageurs, ça leur donnait des envies de bouger, de partir. Surtout quand ils étaient jeunes.
Mais qu'est-ce qui a poussé ce jeune garçon ?
Alors, eh bien, d'abord, sa situation familiale. Ah. Très jeune, il a perdu son père. Parce que son père a été condamné aux galères.
Ouh là là.
C'était une sorte de Jean Valjean des Charentes à l'époque. Pour une peccadille, il a été condamné à 10 ans, je crois, de galères, plus. Alors, le père, il ne l'a plus revu. La mère est morte. Il a été adopté par un oncle. Il était ouvrier boulanger. Et la maison de son oncle donnait sur la cour d'une auberge de poste. C'est-à-dire là où tous les voyageurs s'arrêtaient et passaient et pour aller vers les Antilles ou plus loin encore. Voyez-vous, enfant, il a vu passer des gens qui partaient pour le lointain.
Il
avait un très bon instituteur aussi qui lui a fait lire des ouvrages de voyage.
Ah, oui.
Par exemple, Robinson Crusoe et d'autres. Et je pense que sa vocation d'explorateur est née là.
Ah, oui.
À proximité de cette auberge de poste où toutes les diligences s'arrêtaient pour changer de chevaux, comme d'habitude,
bien
à l'époque. Et puis où il a vu passer des marins, des amiraux, etc., des commerçants, des gens qui partaient au loin et ou qui en revenaient. Voyez-vous, évidemment, avec un poste d'observation
théorie
pareil.
Théorie et début de pratique.
Voilà, voilà. Ouais. Il a été incité à partir.
Ah, formidable.
Bon. Et par conséquent, il a voulu partir très tôt.
Et pourquoi l'Afrique ? Pourquoi ? Comment a-t-il choisi ce Tombouctou ?
Mais parce que d'abord, il est allé au Sénégal. D'abord, il a fait plusieurs voyages entre la France et le Sénégal. Il est allé au Sénégal. Il a appris les langues locales aussi. Il a travaillé là-bas comme contremaître ou agent d'une compagnie commerciale. Enfin bon, il a fait des travaux intermittents, des petits boulots là-bas. Hein. Étant tout jeune, il a appris les langues, il a pris connaissance avec le pays. Et tout ça lui a fait comprendre qu'il était capable d'aller plus loin vers l'intérieur.
Il parlait très bien l'arabe.
Oui, il a appris l'arabe aussi. Bon, après avoir parlé quelques langues locales, voyez-vous, c'était indispensable pour circuler dans ces régions. Et puis, il était omnubilé par Tombouctou. Il n'était pas le seul Français à l'époque. Mais parce que Tombouctou avait une réputation de cité idéale, de cité savante. Il y avait une université au Moyen-Âge à Tombouctou. Il en subsiste encore beaucoup de manuscrits que l'on peut voir si on va à Tombouctou. Lorsque je suis allé à Tombouctou, vous avez des tas de sortes de petits musées privés de gens qui veulent à tout prix vous montrer les manuscrits dont ils ont hérité de leurs ancêtres.
Qui datent du 12e.
12e, 13e siècle, de notre Moyen-Âge à nous.
Il y en a des milliers, je crois.
Il y avait une université à Tombouctou au moment du Moyen-Âge européen. À l'époque
mais comment
du Moyen-Âge européen.
Un garçon venu d'un milieu comme le sien
pouvait-il
connaître cet endroit de Tombouctou? C'est ça qui est assez étonnant.
Tombouctou avait une réputation quand même sur les premières cartes on faisait figurer Tombouctou, parce que Tombouctou, quand même, il y avait eu des échanges entre Tombouctou et le sud du Maroc,
par exemple.
Bien ancien, voyez-vous. Un certain nombre d'enseignants de Tombouctou venaient du sud marocain et en repartaient.
Un lieu mythique.
Voilà, est devenu un lieu mythique.
Un lieu mythique. Et puis vous rappelez, vous interrompre une seconde, je me souviens, lorsqu'il y a eu une allocution d'accueil sur le colloque qui a été donné sur René Caillé, vous vous rappelez que celui-ci a été le premier, je vous cite, celui-ci a été le premier héros de notre société. À peine venait-elle d'être fondée en 1821, qu'elle créa avec l'aide de mécènes français et étrangers un prix de 10 000 francs or, ce qui était quand même considérable, et qui fut doublé par notre gouvernement pour le premier Européen qui parviendrait à Tombouctou et en ramènerait des informations précises. Le nom de cette ville était un véritable mythe. Voilà ce que vous écrivez.
Absolument. À l'époque.
Alors ce voyage.
Eh bien, il est parti tout seul. Il a fait ce voyage tout seul.
Déguisé en arabe.
Déguisé en arabe. Il parlait l'arabe.
Parlant arabe et ayant un Coran.
Et il faisait 20 ou 30 kilomètres par jour. Il est tombé malade. Entre-temps, au milieu du voyage, il a réussi à se sauver grâce à l'aide d'indigènes qui l'ont soigné, etc. Ça n'a pas été une promenade de santé.
Est-ce qu'il a été plutôt bien accueilli dans l'ensemble?
Oui, enfin, il est passé pour arabe. Il se faisait passer pour arabe. Donc, évidemment, il n'était pas européen aux yeux de... Bon, évidemment, il a fallu qu'il joue son rôle, d'arabe.
Européen, il n'aurait pas réussi, probablement.
Je ne crois pas. Alors, il était censé être un arabe qui se dirigeait vers l'urinage de l'Afrique du Nord-Est. Et la Mecque, en direction de la Mecque. Donc, il était un arabe qui allait vers la, soi-disant, vers la Mecque. Oui. Alors, pour le trajet de la Guinée à Tombouctou, ça a marché. Mais pour le trajet de Tombouctou à Tanger, il ne pouvait pas dire qu'il allait vers la Mecque. Non, c'était plus difficile. Ouais. Oui, bon, il a continué sans doute à le dire, mais enfin, il y a peut-être moins de gens qui l'ont cru. Mais enfin, il a réussi à accompagner des caravanes qui remontaient du sud du Sahara, de la boucle du Niger, vers le sud marocain.
Ah oui.
Et il est revenu à pied, là aussi.
Et personne ne s'est rendu compte du subterfuge, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout arabe.
Non, il a essayé de... Bah, il était hirsute, il était habillé en arabe, il parlait l'arabe.
Oui, bon, c'est une histoire.
Il avait réussi, il a réussi sans doute à tromper tous les gens qui l'ont rencontré, les chameliers, tout ça.
Mais le plus étonnant, professeur Bastier, le plus étonnant, c'est qu'il a été, j'ai comme l'impression, presque un peu déçu par Tombouctou une fois arrivé là.
Mais Tombouctou, c'est pas une très grande ville.
Et ni une très belle ville.
Non plus. C'est de la terre séchée, de la terre cuite. Il n'y a pas de pierre. D'abord, il n'y a pas de monument en pierre. Même les mosquées, les minarets des mosquées sont en terre séchée. Vous voyez, ça ne va pas très haut. Hein. Bon, il n'y a pas de pierre dans la région.
Et qui d'ailleurs n'est pas une si vieille ville que ça, parce qu'elle a été incendiée, je crois, au 19e siècle, si je me souviens bien.
Elle a dû souffrir à bien des reprises.
Oui, il me semble.
Alors, il n'est pas le premier, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, mais la différence est minime. Il n'a pas été le premier à revenir de Tombouctou. Le libellé du prix, qui avait de 10 000 francs, ce motif a joué beaucoup aussi. Hein. Parce qu'il voulait avoir les 10 000 francs.
Ah, il voulait avoir les 10 000 francs.
Qui sont devenus 20 000 d'ailleurs. Qui sont devenus 20 000.
À l'époque, c'est une somme considérable.
C'est une somme très importante. Bon. Alors, il concourait vraiment pour essayer d'avoir ce prix qu'il a eu d'ailleurs. Bon. La clause, c'était qu'il fallait ramener des informations, aller à Tombouctou et en ramener des informations.
Ah, d'accord.
Alors, l'anglais, qui d'ailleurs était un écossais, qui s'appelait Mungo Park, que vous avez mentionné, est arrivé à Tombouctou avant lui.
Ah,
elle est repartie avant. Seulement, il a
la
été...
même année ou
peu de temps avant. Quelques semaines ou quelques mois. Bon.
Et
il a été massacré à la sortie de Tombouctou.
Ah là là.
Donc, il n'a pas répondu à la seconde clause.
Et oui, il n'est pas revenu
ramener des informations. Il n'a pas ramené d'informations. Et parce qu'il a été massacré avec son escorte.
On n'a jamais redécouvert des documents lui appartenant
à Mungo Park.
Non,
mais peut-être des témoignages quand même. On a failli acquérir la certitude qu'il avait été vraiment massacré à la sortie, pas très loin de Tombouctou. Tandis que René Caillé, lui, il est revenu jusqu'en Europe.
Il a ramené les informations.
Il a ramené les informations. Alors, c'était un esprit très observateur.
Ah oui?
René Caillé. Oui, ça aussi, ça l'a sauvé. Il était très observateur. Il était géographe sans le savoir. Il a bien observé les pierres, les plantes, les paysages, les animaux, vous voyez, la végétation.
Et qu'est-ce qu'il nous a apporté de nouveau?
Ah, mais il a ramené des récits sur les plantes, tout cela, tout ce qu'il avait vu.
Que nous ne connaissions pas.
Des dessins aussi, tout ça était bien. Ah oui, on connaissait très peu le Sahara à l'époque. Très, très peu, infiniment peu.
Mais comme il était seul, il ne pouvait pas avoir beaucoup de bagages.
Oui, mais il a réussi à dessiner, à écrire quand même.
Il a ramené avec lui à travers le désert.
Pas des tonnes de documents, évidemment, mais des descriptions, puis qu'il a mises au point une fois revenu en France.
Bien sûr.
Il a ramené quand même des observations.
Il avait un carnet.
Oui, il avait de quoi écrire. Il a ramené des observations intéressantes sur ce trajet. Donc, lui a ramené. Alors, il est
arrivé. Et son voyage a duré combien de temps de bout en bout, c'est-à-dire avant d'atteindre Tombouctou.
Bout en bout, attendez, je l'avais noté.
Et on revient à Tanger.
Eh bien, aller à Tombouctou, voyons, quelques dates. Il avait 27 ans lorsqu'il est parti, donc, vous voyez, ça lui faisait... 1799, il est parti en 26, 27.
Oui.
Ça a duré pas tout à fait 4 ans.
Ah là là, il était sur le chemin, quasiment entre les bateaux et les fleuves.
Aller jusqu'à la côte du golfe de Guinée.
C'est énorme.
Enfin, la côte de Guinée. Ensuite, à la Tombouctou. Le retour a été plus long que l'aller.
Ah oui.
L'aller, ça a duré 3 mois, peut-être, de la Guinée à Tombouctou. Mais le retour a duré 2 ou 3 fois plus que l'aller.
Il est resté combien de temps à Tombouctou?
Pas très longtemps.
Non.
Pas très longtemps. Si on calcule bien, il est resté à Tombouctou 14 jours.
Ah oui, donc c'est
Tombouctou,
c'est
même,
court,
dans la ville. Mais le voyage a duré.
Et comment expliquer qu'il soit resté si peu de temps à Tombouctou?
Parce que suivez bien, c'était quand même séjourner trop longtemps aurait c'était été dangereux, je pense. Oui. Il fallait pas non plus.
On l'aurait questionné, on lui aurait posé,
davantage de questions.
Il parlait, vous me disiez tout à l'heure, il parlait très bien l'arabe.
L'arabe et puis un certain nombre de langues, au moins de la partie sénégalaise région, voyez-vous.
Donc il se débrouillait assez bien
donc,
à ce niveau-là.
Oui. Et donc il est resté 4 jours à Tombouctou. C'est le voyage qui a été le plus long, évidemment.
Et puis son retour à Tanger est absolument inouï.
Alors à Tanger, il est arrivé affamé, en haillons, évidemment, les pieds en sang, etc. Et alors, il est allé frapper à la porte du consulat de France à Tanger.
Oui.
Qui s'appelait De la Porte.
Ah oui.
Et ce De la Porte avait fait partie de l'expédition d'Égypte.
Ah là là.
Donc, et c'était un orientaliste distingué.
Donc un homme de terrain.
Membre de la Société Géographie. Oui. Orientaliste, arabisant.
Oui.
Il avait été l'un des 6 interprètes de Bonaparte en Égypte. Le français et l'arabe, en Égypte, De la Porte. Donc il était à ce moment-là consul de France à Tanger, en relation avec la Société Géographie. Et notre secrétaire général de l'époque, un dénommé Jomard, qui est devenu ensuite directeur des cartes et plans à la Bibliothèque nationale, qui est le principal auteur de la description d'Égypte, dont j'ai parlé tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
Coordinateur, qui n'a pas tout écrit, mais qui a été le coordinateur de l'expédition d'Égypte.
La description d'Égypte a été traduite en combien de langues?
À ma connaissance, elle a été publiée en français.
Mais en anglais, elle a été
faite.
Oui, mais après, ça n'a même pas été publié en anglais.
Je n'en suis pas sûr. Il faudrait voir, mais je n'ai pas
pour
entendu
de tels travaux. C'est inouï,
sur ça. La traduction de la description d'Égypte.
Oui. Alors,
vraisemblablement, elle a dû être traduite en anglais.
Mais pour revenir à René Caillé, alors comment a-t-il été récupéré?
Alors, ce De la Porte avait reçu un message de notre secrétaire général de l'époque, Jomard, qui lui annonçait qu'un Français était parti pour découvrir Tombouctou et allait au retour passer vraisemblablement par le Maroc.
Ah oui.
Donc, quand il a vu cet homme arriver en haillon, il a compris que c'était peut-être lui. Et évidemment, Caillé le lui a confirmé.
Le problème, c'est qu'il n'avait pas de passeport.
Il n'avait rien, mais à l'époque, on pouvait. Et alors, De la Porte a tout fait pour le faire revenir en Europe.
Exfiltré.
Et là, il a exfiltré. C'était la difficulté, c'était le faire sortir du Maroc sans que les Marocains s'opposent à sa sortie, puisqu'il n'avait aucun papier, et on ne savait pas comment.
On aurait pu penser que c'était
espion,
un espion.
Évidemment. Et De la Porte a réussi d'exfiltrer René Caillé, de lui faire venir un bateau français de Cadix, en Espagne, pour l'embarquer nuitamment, lui faire traverser la Méditerranée et le faire transporter jusqu'à Marseille.
Incroyable.
Et de Marseille, il est revenu à Paris. Incroyable. Mais arrivé à Paris, avant de remettre le prix, les membres de la société ont pris quand même leurs précautions. On le fait passer devant un aéropage, si vous voulez, de gens savants qui n'étaient pas allés là-bas, mais qui avaient lu des tas de choses, qui croyaient connaître Tombouctou sans y être allés, et qui avaient lu beaucoup de choses. Et on lui a fait passer une sorte d'examen pour savoir s'il disait vrai.
Oui, tout de même.
Bon,
mais comment pouvait-on s'en assurer?
Mais d'après tout ce qu'on avait lu, tu avais été écrit, plus ou moins vrai ou faux, des écrits qu'on avait. Et ce jury, si vous voulez, qui a siégé pendant plusieurs jours, je crois, de membres de la société, a fini par déclarer que oui, ce monsieur était vraiment allé à Tombouctou parce que d'après ce qu'il disait, effectivement, il avait dû voir Tombouctou.
Et alors,
ils ont été quand même honnêtes, objectifs, honnêtes, et quand même, ils ont porté un bon jugement parce que par la suite, tout a prouvé qu'effectivement, il y était allé.
Donc, René Caillé est véritablement un des plus grands explorateurs français du 19e, finalement.
Ah, mais surtout par les conditions difficiles dans lesquelles ce voyage a eu lieu.
Ah oui.
Parce que des gens qui avaient essayé d'aller à Tombouctou, il y en avait, mais ils avaient été tous massacrés.
Donc, il a réussi à se faufiler.
À plus ou moins grande distance de Tombouctou, quelquefois avant même d'en être proche, ils avaient été massacrés, soit qui venait du nord ou du sud.
Et là,
lui, il a réussi à y aller et à revenir.
Donc, c'était un peu quand même mythique, Tombouctou, mythique et zone interdite, un peu quand même. Donc, il a réussi à braver l'interdit.
Interdite de fait, par l'éloignement, le climat, la langue, tout, vous voyez. Une certaine hostilité vis-à-vis des Européens, au moins de la part de certains.
En conclusion,
autochtones, pas tous.
Cher Jean-Bastien, en conclusion, qu'est-ce que vous admirez finalement de René Caillé? Qu'est-ce qui vraiment vous donne ce petit frisson là, vous, comme
géographe?
Ah,
mais d'abord le courage physique,
ah oui,
le sens de l'organisation aussi. pour arriver à réussir tout ça. Il était seul, il n'avait personne.
Un mental.
Le sens de l'organisation, hein, oui, le sens de l'adaptation, de s'adapter à toutes les situations.
Hein. Ça, c'est formidable.
Bon, la débrouillardise, tout ça, hein, ça compte énormément.
Il n'a pas écrit tellement, finalement.
Il n'a pas tellement écrit. On a quelques carnets de voyage, quelques de lui, mais c'était pas un écrivain, évidemment.
Non.
La Pérouse non plus, d'ailleurs. Oui. Mais La Pérouse, il nous a laissé beaucoup de correspondance.
Ah, voilà.
Nous avons publié, nous, dans l'ouvrage dont vous avez parlé, un tas de lettres de La Pérouse, toutes les époques de sa vie, sur des sujets les plus divers.
Alors que René Caillé, nous avons très peu de correspondance.
Très peu de correspondance, carnet de voyage. Bon, on a quand même certaines choses.
Parce qu'il était beaucoup moins cultivé que La Pérouse, évidemment.
Moins cultivé, mais c'était un homme d'esprit, La Pérouse aussi, certainement. Je ne veux pas médire La Pérouse.
Mais si vous aviez, en conclusion, si nous avions trois mots pour définir La Pérouse et trois mots pour définir René Caillé, vous diriez quoi ?
René Caillé, d'abord, c'est l'autodidacte par définition, puisqu'il n'avait fait aucune étude, il n'a appris aucune langue, sauf par lui-même, c'est l'autodidacte.
Donc un être étonnant quand même.
Il était allé à l'école primaire, c'était tout. Tandis que La Pérouse avait eu une éducation, parce qu'à l'époque, les officiers de marine, destinés à devenir des lieutenants de vaisseau, des capitaines, des chefs d'escadre.
Il fallait un bagage.
Il y avait un bagage. De longues études.
Donc finalement, et ça sera notre conclusion.
Oui, c'est l'autodidacte.
Ça sera notre conclusion, Jean Bastier.
Fils de Bagnard.
René Caillé. Mais ça sera notre conclusion, c'est que finalement, nous avons d'une part un La Pérouse extraordinaire explorateur du Pacifique avec la formation qu'on lui connaît. Et deuxièmement, René Caillé, cet autodidacte, étonnant personnage,
un autodidacte de génie.
Écoutez, merci Jean Bastier de nous avoir ainsi dressé le portrait de René Caillé. Je rappelle que cette émission s'inscrit dans une série consacrée aux grands explorateurs, parmi lesquels vous retrouverez Verrazzan, Cavalier de la Salle, Dumont-d'Urville, Alexandre von Humboldt, La Pérouse et d'autres encore sur notre site canalacademy.com. Merci Jean Bastier et à bientôt pour de prochains portraits.